Un nouveau venu dans la composante navale de la dissuasion nucléaire française, premier sous-marin nucléaire d'attaque, le Suffren, va être inauguré et mis à l'eau aujourd'hui en présence d'Emmanuel Macron. Et ce, à 2 jours du défilé militaire du 14 juillet. Pendant ce temps, dans l'actualité internationale, la question de la dissuasion nucléaire reste extrêmement présente à travers les multiples réactions, notamment du président américain Donald Trump. On voit bien que les grandes tensions internationales sont liées à cette question du nucléaire. Est-ce à dire que le risque de prolifération est toujours réel? Que vaut aujourd'hui la doctrine de dissuasion nucléaire? On en parle avec nos invités. Benjamin Hautecouverture, maître de recherche à la Fondation pour la recherche stratégique, spécialiste des questions de sécurité nucléaire. Bonjour.
Bonjour.
Et à vos côtés, Isabelle Lasserre, responsable des questions de diplomatie et de stratégie au Figaro, auteur cette année de « Le réveil des armées » chez Jean-Claude Lattès. Longtemps antimilitariste, l'opinion accorde aujourd'hui une confiance quasi sans faille à son armée. Vous revenez sur ce point-là dans ce nouvel essai, Isabelle Lasserre. Des militaires courageux, efficaces, en défense des valeurs républicaines, voilà comment ils sont perçus dans l'opinion française. Et ça, c'est une nouveauté. Bonjour Isabelle Lasserre.
Bonjour.
Un sous-marin qui contribue au prestige renouvelé de l'armée. Est-ce qu'on peut parler ainsi de ce Suffren qui va être inauguré aujourd'hui par le président de la République, Emmanuel Macron. C'est vrai que jusqu'à une époque récente, on pointait surtout le coût de l'armée, la part trop importante en temps de paix de la défense dans le budget national. Aujourd'hui, il y a comme un prestige renouvelé, retrouvé, auquel va contribuer ce nouveau sous-marin.
Bah oui, il y a un prestige renouvelé parce qu'il y a une insécurité internationale tout à fait nouvelle et exacerbée. Dans ce contexte, il est vrai que avec les États-Unis qui s'éloignent de l'Europe, la multiplication des menaces, la Chine, l'Iran, la Russie, les attentats terroristes, c'est vrai que la question de la sécurité des pays qui forment une Europe qui s'affaiblit de plus en plus d'ailleurs et qui se divise est redevenue très très importante. Il est vrai aussi que en Europe, traditionnellement, enfin depuis assez longtemps, il y a deux pays qui tiennent vraiment la route au niveau militaire et qui ont deux grosses et fortes armées, c'est la Grande-Bretagne et la France, et que la Grande-Bretagne est en train de quitter le navire, donc la France se retrouve en quelque sorte seule à bord au niveau de la compétence militaire. Évidemment, l'Allemagne a une armée qui est aussi conséquente, mais qui n'est pas une armée combattante. Donc c'est très important.
Il y a une redistribution des cartes au sein de l'Union européenne, mais même si quand le Brexit sera effectif, l'Angleterre, la Grande-Bretagne ne quitte pas pour autant la scène internationale. Elle va continuer ses jeux d'alliance, non?
Elle va continuer ses jeux d'alliance, mais ça complique quand même pas mal de choses. Elle n'est plus dans l'Union européenne. Il y aura toujours, bien évidemment, la question de la coopération bilatérale entre la Grande-Bretagne et la France au niveau militaire ne va pas s'arrêter, mais ça posera des questions. Par exemple, on parlait de nucléaire. Jusque-là, il y a deux puissances nucléaires en Europe. C'est la France et la Grande-Bretagne. Mmh. À partir du moment et qui sont des deux puissances membres permanentes du Conseil de sécurité, puisque initialement c'est lié. Le jour où la Grande-Bretagne quitte l'Europe, ça pose un problème à la France, qui se retrouvera de facto la seule puissance nucléaire de l'Union européenne, et sa position, alors qu'il y a une espèce de remontée du pacifisme aujourd'hui, des courants anti-nucléaires, sa position risque d'être plus difficile à défendre au sein du Conseil de sécurité de l'ONU.
Benjamin Hautecouverture, ce sous-marin à propulsion nucléaire, c'est un sacré défi technologique qui a été relevé là par la France en toute autonomie dans notre chantier naval de Cherbourg. C'est le premier submersible qui a été conçu dans le cadre d'un programme plus large, le programme Barracuda. Il y en a 5 autres qui vont arriver. Ça va coûter 9 milliards d'euros, ce programme, s'il n'y a pas de rallonge en cours de route. Et en tout cas, il ramène aussi la France au même rang que les États-Unis et que les Britanniques en se dotant d'un tel sous-marin. Mais ce qu'on a du mal à percevoir, une fois qu'on a vu le bel objet, c'est quelles vont être les missions de ce sous-marin? En d'autres termes, à quoi il va servir?
Bah écoutez, d'abord, il faut noter que les programmes de sous-marins nucléaires d'attaque, que ce soit les Français, les Américains, les Russes, sont tous dans des séquences de mise à niveau des équipements ou de modernisation. En France, c'est un programme qui a commencé il y a longtemps. On sait qu'ils vont rentrer en service entre le début des années 2030 et pour le dernier, le début des années 2040. Et les SNA, comme vous l'avez dit au début, sous-marins nucléaires d'attaque, qui sont donc distincts des sous-marins nucléaires lanceurs d'engins, hein, puisqu'ils ne lancent pas de missiles balistiques chargés de têtes nucléaires. Ils sont à propulsion nucléaire, contribuent naturellement au prestige de la France, au prestige technologique, au prestige militaire, mais surtout sont des instruments de projection de puissance. Et leurs missions sont des missions conventionnelles classiques, si vous voulez, de chasseurs de sous-marins, de collecte de renseignements, d'accompagnement des groupes d'aéronavales sur les mers. Mais il faut aussi noter qu'ils ont une place particulière dans le dispositif de dissuasion nucléaire français, en accompagnant les entrées et les sorties de nos sous-marins nucléaires lanceurs d'engins à l'île longue, en sanctuarisant l'environnement des SNLE. Donc de ce point de vue-là, ils ont un rôle particulier. Et ce qui est notable dans ces nouveaux types de sous-marins, les Barracuda, c'est qu'ils contribuent, comme les autres, comme les précédents, aux dispositifs de dissuasion conventionnelle, mais en particulier, ceux-là auront une vocation stratégique. Alors pourquoi ? Parce que leur armement est relativement nouveau, en cela qu'ils emportent pour la première fois le missile de croisière naval. Et le missile de croisière naval, vous le savez, a une capacité de frappe terrestre dans la profondeur. Jusqu'à 4 missiles peuvent être tirés simultanément depuis le sous-marin immergé, en une seule salve, à 1000 km de distance. Dans la profondeur sur des cibles terrestres. Ça lui donne une vocation stratégique inédite.
Dans un monde de la dissuasion nucléaire, vous nous parlez là de la dissuasion conventionnelle, de l'importance quand même d'avoir l'oreille fine. Comme nous le rappelait Le Chant du Loup, le film fiction d'Antonin Baudry sorti l'an passé, qui nous embarquait lui aussi à bord d'un submersible, où un jeune officier était chargé d'analyser les bruits captés par les appareils du sous-marin nucléaire français. C'est un peu ce qu'il va falloir faire pour l'équiper du Suffren.
C'est quoi la guerre acoustique? C'est dangereux?
Ok, j'ai peut-être quelque chose dans la trace. Du 4 temps.
Il n'y a pas de sous-marin à 4 pales.
Je sais.
Le rendez-vous avec les nageurs, là, c'est oui ou c'est non?
Le Chant du Loup. Il nous a détecté, second.
Poste de combat, tu diffuses.
On doit récupérer les nageurs, c'est la mission.
Trois splash au sonar!
Je trouve ce que c'est.
On est au niveau d'alerte 6. Grand Champ, vous passez commandant de sous-marin nucléaire lanceur d'engins. Vous prenez l'effroyable.
Gardez-vous!
Dorsey, vous passez commandant du Titan. Pour commencer, vous escorterez l'effroyable jusqu'à ce qu'il soit dilué dans la mer gelée.
La guerre acoustique, ça c'est assez fascinant, Isabelle Lasserre. Et vous nous disiez à l'instant, Benjamin Haute-Couverture, qu'il y aura deux oreilles d'or dans ce nouveau sous-marin, le Suffren, homme ou femme, parce que maintenant les femmes vont pouvoir aussi partir à l'abordage dans un submersible. Isabelle Lasserre, il va aller où en fait ce sous-marin? On va l'envoyer où? Quelles sont aujourd'hui les zones stratégiques, là où il est important de faire du renseignement?
Il va partout. Il va partout parce que les zones stratégiques pour un pays comme la France, elles sont très très vastes. Elles sont sous toutes les mers. Alors il est évident que comme il accompagne les SNLE régulièrement, il est probable que on le retrouve régulièrement dans la Méditerranée et vers la Chine. Mais de toute façon, ils vont partout, les sous-marins d'attaque, absolument partout.
Il y a un autre ou d'autres attributs de puissance, et c'est notamment notre bon vieux porte-avions Charles de Gaulle qui était à quai, lui, à Singapour le mois dernier. Début juin, il a fait escale là-bas avec la ministre des Armées, Florence Parly, pour le Shangri-La Dialogue, une conférence sur la sécurité en Asie. Ça a été un temps fort. Il y a une stratégie indo-pacifique, comme dit le président de la République, face à la Chine qui est en train de se mettre en place. Quels sont nos intérêts là-bas ? Benjamin Haute-Couverture, Isabelle Lasserre.
Oui, alors écoutez, des intérêts, il y en a beaucoup si vous voulez. Le président Macron avait parlé dès 2018 d'un nouvel axe Paris-Delhi-Canberra, on s'en souvient. Les armées ont réfléchi à une nouvelle stratégie pour la France en Asie-Pacifique au cours de l'année 2018-2019. D'ailleurs, au passage, l'AFRS, la Fondation pour la Recherche Stratégique, y a pris sa part modestement. Et ça a été formulé effectivement par la ministre au dialogue Shangri-La. Les intérêts, écoutez, ils sont assez clairs. Il y a 1 600 000 habitants français dans la zone Asie-Pacifique. Nous avons une zone économique exclusive dans le Pacifique de 6,8 millions de kilomètres carrés. Nous sommes sur les grands points de communication maritime. Nous avons des intérêts souverains à protéger. Et par conséquent, il y a une stratégie qui a été finalisée au printemps 2019, qui a suivi d'ailleurs la stratégie d'autres pays, hein, en particulier une nouvelle stratégie de rééquilibrage des intérêts américains dans les années 2008-2010 sous la présidence Obama. Et cette stratégie, c'est 1. La protection des intérêts souverains de la France par le biais de 5 commandements sur place, 3 bases, 7000 personnels. 2. La contribution de la France et donc de ses commandements et de ses capacités à la stabilité régionale via des partenariats d'ailleurs avec les pays de l'ASEAN. 3. La préservation de la liberté de navigation. Et là, on voit bien que le sujet, c'est l'agressivité chinoise en mer de Chine méridionale. C'est également la stabilité stratégique qui vient en quatrième. Et là, on est très clairement face à l'enjeu que représente la prolifération nucléaire dans la péninsule coréenne, avec une position très ferme de renforcement des sanctions par la France et d'exigence d'un désarmement total de la Corée du Nord. Et puis 5, l'anticipation réduction de risques environnementaux, puisqu'on sait qu'ils augmentent. Donc on a ces 5 objectifs stratégiques. Il est d'ailleurs notable que le risque lié à la prolifération et la Corée du Nord arrive en quatrième. Hein, c'est pas l'un des premiers pour la France qui a un intérêt indirect. Mais enfin, cette stratégie a pris forme avec des partenariats stratégiques. Hein, on connaît le partenariat stratégique avec l'Australie en février, avec la livraison également de Barracuda. Et tout cela est en train de prendre forme.
Isabelle Lasserre.
Non, moi je voulais rajouter trois petits éléments. C'est vrai que les États-Unis ont fait, ont amorcé en tout cas leur pivot asiatique depuis longtemps. Il est clair que le principal rival stratégique des États-Unis aujourd'hui, je mets de côté l'obsession anti-iranienne de Trump, c'est la Chine, et que l'Europe, elle, ne s'est réveillée que très très récemment. Je crois qu'on peut dater ce réveil européen même de quasiment de 2019. C'est-à-dire que c'est la première fois aujourd'hui où au sein de l'Europe, on a les chefs des diplomaties et les chefs des ministères de la Défense qui parlent ouvertement de cette nécessité de contrer la Chine, et pas seulement au niveau commercial. Donc c'est un réveil qui, moi, me paraît particulièrement tardif, notamment parce que ça fait des années que la Chine développe et investit dans son armée de manière assez spectaculaire. Alors on a toujours dit au début, ouais, mais c'est les Chinois, donc les bateaux sont mal faits, ils sont pas performants, etc. Pas du tout. La marine chinoise est aujourd'hui absolument tout à fait compétente.
Avec un arsenal nucléaire aussi.
Ah bah oui, bien sûr.
Oui, là, parce d'accord. Que là, oui. Mais alors, du coup, quel poids la France ?
On dit quand même que la Chine, je crois, met à l'eau l'équivalent de la marine française, je crois que c'est tous les 5 ans. Donc c'est quand même très très spectaculaire, en fait, ce développement de la marine chinoise et de... Voilà, avec toutes les menaces qui existent contre Taïwan. Et dernière chose, c'est vrai que la France est directement concernée par la crise nord-coréenne à deux titres. D'abord parce qu'elle était partie prenante au traité de 1953, et qu'ensuite, c'est vrai que la France est l'un des pays du monde le plus en pointe sur les questions de prolifération, et notamment dans sa volonté de lutter contre la prolifération nucléaire. Or, l'Asie est vraiment le continent, enfin un des continents, mais enfin plutôt le continent où le risque nucléaire entre l'Inde, le Pakistan, la Chine et la Corée du Nord.
Quand vous dites le plus en pointe, tous les deux d'ailleurs, quel est le poids réel de la France, et notamment en termes de dissuasion nucléaire, face à des pays comme la Chine, comme la Russie aussi, comment contrer la Chine ? C'est-à-dire, on est dans un système de diplomatie, de négociation, de menace plus que de rapport de force réel, non, et équilibré.
Oui, enfin, c'est-à-dire que la participation française, si vous voulez, est assez indirecte s'agissant de risque ou de danger nucléaire chinois. Il faut quand même se rappeler que la Chine est encore une puissance nucléaire pas rudimentaire, mais dont l'arsenal est en cours de modernisation. Ils n'ont pas encore acquis une triade stratégique. Ils ont encore un nombre limité de charges nucléaires. Ils sont absolument pas au niveau russe ou au niveau américain. Et la France n'est pas ne considère pas la Chine comme un ennemi, un compétiteur ou même un rival, si vous voulez. Donc, il n'est pas dans la ligne de mire de notre dissuasion. Cela dit, la dissuasion française, elle est tous azimuts. Elle est dirigée contre tout type de menace, contre nos intérêts vitaux. Et si un jour la Chine devait représenter une menace, ce qu'elle n'est pas, alors la robustesse, disons, de la dissuasion française serait également valable dans le cas d'une menace chinoise, mais comme elle l'est dans le cadre d'une menace russe et de la réémergence de l'agressivité russe aujourd'hui.
Qu'elle est coordonnée et cohérente avec la stratégie américaine en la matière? On a l'impression que les alliés sont aussi en ce moment assez déboussolés par le manque de lisibilité de la stratégie américaine.
Le manque de lisibilité de la stratégie américaine, je ne suis pas tout à fait d'accord, parce que la Nuclear Posture Review qui a été publiée par le Pentagone en février 2018 est très claire. On sait très bien où va le processus de modernisation des armes américaines. Il y a un petit flou peut-être sur les nouvelles capacités de faible puissance et qui pourraient se développer dans les années à venir, mais ce n'est pas sûr. Cela étant, les forces de dissuasion nucléaire françaises, comme les Britanniques, sont totalement intégrées au concept et à la posture nucléaire otanienne depuis 1972, depuis le début des années 70. Elles participent, et les documents de 2010 et de 2012 le répète, à la posture globale de dissuasion nucléaire de l'Alliance, et la part de la France là-dedans est assez classiquement distribuée, même si on fait pas partie du groupe des plans nucléaires et qu'on n'en fera pas partie parce qu'on a une dissuasion indépendante et qu'on souhaite rester à l'écart du nuclear sharing de l'OTAN, mais il n'y a pas tellement de nouveautés en la matière, et les interrogations qu'il peut y avoir sur la position américaine, c'est plutôt sur le partage des charges, et en particulier sur la modernisation de l'outil conventionnel militaire des pays de l'OTAN. Mais sur le nucléaire, c'est assez orthodoxe encore, hein, ça bouge pas énormément. On pourrait voir cette année, face à la fin du traité FNI programmé pour cet été, les nouveaux systèmes d'armes émergeant en Russie, peut-être une adaptation de la posture nucléaire et de la posture de dissuasion conventionnelle et nucléaire de l'OTAN après le sommet de la fin de l'année. Ça peut-être, il y aura peut-être des adaptations par rapport aux postures de 2010-2012.
On a quand même vu des divergences, Isabelle Lasserre, notamment sur le dossier nord-coréen où la France a justifié sa politique en appuyant le processus de non-prolifération, quitte à pousser la mise en œuvre des sanctions, là où le dialogue tente d'être établi du côté américain par des sommets qui ont été un peu raillés aussi par les Français.
Les divergences entre la France et les États-Unis à ce niveau-là, elles sont absolument énormes. Mais c'est deux choses différentes en fait. Au niveau militaire d'ailleurs et au niveau nucléaire, les Français, les Américains s'entendent plutôt très bien et n'ont pas du tout de conflit. Et c'est voilà. Après, il y a la manière dont on traite des crises de prolifération ou des dossiers qui peuvent devenir des crises de prolifération. Et là, il y a une opposition effectivement totale de la France avec la manière Trump. Alors, il y a eu la Corée du Nord, hein, mais parce que Trump, c'est l'art du deal. Donc, d'abord, il travaille de manière uniquement bilatérale et pas multilatérale. Et ensuite, c'est un maximum de pression pour essayer de forcer une soumission de l'autre. On le voit en ce moment même, exactement de la même manière, avec l'Iran, où finalement sur l'Iran, les États-Unis et la France sont en gros d'accord sur tout. C'est-à-dire, ils trouvent que l'accord n'est pas assez solide. Il y a un problème de que va devenir l'accord quand les clauses principales tomberont en 2025. Ensuite, il faut absolument intégrer la question du programme balistique iranien et limiter l'influence, la progression et l'influence iranienne au Moyen-Orient. Donc, sur les objectifs, Trump et Macron, et d'ailleurs, on pourrait mettre d'autres présidents, quoique Barack Obama, c'est différent, sont tout à fait d'accord. C'est la méthode qui diverge. Encore une fois, Trump, c'est j'étrangle économiquement les Iraniens, je mets une pression maximum pour les pousser à la table des négociations. Et la France, qui à l'époque, c'était elle complètement opposée à l'accord nucléaire. Je peux continuer?
Juste en un mot, parce qu'il est 8h, pardon.
Et la France est partisane d'une méthode plus souple, et elle considère que la sécurité viendra de la conservation de l'accord.
Voilà, on va revenir sur ce dossier iranien dans un quart d'heure, avec à la fois les questions des sanctions qui vont être considérablement durcies, a prévenu ou menacé le président américain, et d'un autre côté la médiation française engagée sur ce dossier.
France Culture, les matins d'été, Olivia Gesbert.
La dissuasion nucléaire en question ce matin avec nos invités, le politologue Benjamin Hautecouverture de la Fondation pour la Recherche Stratégique et la journaliste Isabelle Lasserre du Figaro. Isabelle Lasserre, vous rouvriez le dossier du nucléaire iranien juste avant le journal de 8h de Claire Flochel, dans lequel on apprenait d'ailleurs à travers la voix de Franck Madvon que la médiation française en ce moment en Iran ne portait pas réellement ses fruits. On évoquait aussi tout à l'heure à la fois le double message américain, hein, celui tenu fin juin au siège de l'Alliance Atlantique sur le dossier iranien, un message plutôt de retenue, et puis de nouveau cette montée de fièvre du président américain Donald Trump autour du 10 juillet, au milieu de cette semaine, annonçant un durcissement considérable des sanctions contre l'Iran. Alors, où en est-on aujourd'hui? Est-ce qu'il faut peut-être, Benjamin Hautecouverture, essayer de se placer du côté de l'Iran pour comprendre comment ce dossier est en train de se rouvrir et continuer à s'écrire?
Mettons un tout petit peu en perspective les deux crises. Parce qu'on a parallèlement deux crises de prolifération nucléaire, que sont la Corée du Nord et l'Iran. Face à ces deux crises, le président américain affiche depuis 2 ans une stratégie de rupture par rapport à celle de son prédécesseur, qui est celle 1. De la pression maximale, 2. De l'engagement de dialogue direct. En réalité, on se rend compte que cette stratégie a été scindée en 2017-2018 avec d'un côté le dialogue direct avec la Corée du Nord. Pourquoi? Parce que la Corée du Nord le demande depuis la fin des années 80 et le met en place depuis le début des années 90. Et deuxièmement, et là, aubaine enfin un président qui ne demande pas de prérequis avant de conditions avant le lancement de sommets bilatéraux directs. Une stratégie de pression maximale, cette fois, contre l'Iran. Et les deux stratégies échouent. On a une politique de non-prolifération et de dénucléarisation de la Corée du Nord qui, pour le moment, est un échec patent, puisqu'en réalité, ironie du sort, les sommets bilatéraux ont plutôt eu tendance à avaliser la position de la Corée du Nord comme état possesseur d'armes nucléaires, qui parle d'égal à égal avec l'ami américain. Et dans le cas iranien, nous avons un État qui est respectueux de ses engagements au titre d'État non doté de l'arme nucléaire au titre du TNP, qui est traité comme un paria par première puissance mondiale, qui est garante de l'autorité de la norme de non-prolifération. Donc on est dans une espèce d'échec et de non-fonctionnalité totale de cette stratégie américaine, qui à ce jour embarrasse des pays comme la France. Pourquoi? Parce que la France, sur le papier, Isabelle le disait tout à l'heure, est d'accord avec les positions américaines pour certaines d'entre elles, c'est-à-dire ouvrir un espace politique de discussion sur des sujets qui n'ont pas pu être abordés lors de la négociation de l'accord de juillet 2015.
Ça embarrasse la France, mais ça lui permet aussi de trouver une certaine autonomie.
Ah, mais c'est la France est tout de même très embêtée, si vous voulez, parce que le comportement américain dans cette affaire l'empêche précisément de faire valoir cette voie moyenne qui est parfaitement compréhensible, qui consiste à ouvrir le dossier balistique, à ouvrir le dossier de la place de l'Iran dans l'économie sécuritaire régionale, ce à quoi ne peuvent se résoudre les Iraniens dans le contexte actuel d'un État dont les deux genoux sont mis à terre par un régime ou plutôt une administration américaine dont on se demande si elle ne souhaite pas changer le régime au-delà de modifier les termes de l'accord de juillet 2015. Donc la diplomatie française est coincée d'une certaine manière.
Alors sur la stratégie française, de qui parle Emmanuel Macron lors de cette allocution du 11 juin dernier ?
Il peut y avoir, de la part de certaines puissances, une volonté d'aller au bout de cette puissance. Voilà. Et donc de dire, la division des autres m'aide à dominer en quelque sorte et peut servir mes intérêts. Je le comprends totalement. Hein, on est tous livrés à ce risque en tant qu'être humain. C'est aussi ce risque d'hubris. Voilà. Et donc, face à cela, je crois que l'idée constamment rappelée de dire qu'il faut coopérer et qu'il faut réussir à construire les voies et moyens d'avancer ensemble et de trouver les bons compromis est bonne parce qu'elle évite la guerre.
Voilà, l'hubris des uns et des autres pointé du doigt par le président français qui appelle à coopérer plutôt qu'à dominer, Isabelle Lasserre.
Oui, mais il peut s'agir de... On peut parler des États-Unis, de la Russie, de la Chine même. Ouais. La France a toujours été très présente. Elle a toujours eu un rôle de leader dans le dossier du nucléaire iranien. Depuis 2003, quand avec l'Allemagne et la Grande-Bretagne, elle a été à Téhéran pour demander une pause dans le programme nucléaire iranien. Puis, en 2015, quand elle a durci l'accord nucléaire iranien que Barack Obama s'apprêtait à signer très très rapidement. Et aujourd'hui, quand elle essaye d'avoir un rôle de médiateur, d'intermédiaire. Parce qu'essaye de faire la diplomatie française aujourd'hui, elle essaye de demander à Donald Trump de lever les exemptions pour les exportations de pétrole, surtout celles qui concernent la Chine, l'Inde et le Japon, parce que ce sont les principales ressources financières pour l'Iran. Et à l'Iran, elle demande de renoncer, de revenir sur ces violations de l'accord de Vienne de 2015 et de les respecter à nouveau pour essayer de provoquer une désescalade, parce que la France considère aujourd'hui que la situation est extrêmement dangereuse, elle est extrêmement, totalement explosive. Donc en fait, c'est même le plan va encore plus loin, c'est-à-dire qu'en fait, la France prépare le terrain, elle essaye d'avoir une concession de la part de Trump, une concession de la part des Iraniens, et ensuite le plan, en gros, c'est que Trump, c'est qu'en fait il y a des discussions bilatérales, tête à tête, entre l'Iran et les États-Unis. Autant dire qu'on n'y est pas encore, mais on ne peut pas reprocher à la France de ne pas essayer.
Je sors juste un peu du dossier iranien, mais dans ce rôle de pacificateur que joue la France aujourd'hui, est-ce qu'on ne peut pas l'accuser de jouer un peu double jeu avec des révélations cette semaine, à la fois la question de la Libye aujourd'hui, où la France a été sommée par le gouvernement libyen d'unité nationale de s'expliquer sur les missiles français découverts dans un QG du maréchal Khalifa Haftar. C'est un peu embarrassant. Autre point, on a vu cette semaine la ministre des Armées, Florence Parly, devant la commission de la Défense de l'Assemblée nationale, devant s'expliquer sur les ventes d'armes et de livraisons à l'Arabie Saoudite et aux Émirats Arabes Unis, qui font là encore polémique pour leur participation dans la guerre au Yémen. Est-ce que là, il y a une sorte de double image, double projection de la France à travers ces différents dossiers ?
Non, je ne pense pas. Moi, je ne dirais pas ça. Je pense qu'il s'agit vraiment de dossiers qu'il faut distinguer. De la même manière qu'il faut distinguer le dossier coréen et le dossier iranien, qui sont des dossiers stratégiques nucléaires, il faut distinguer ce dossier des dossiers des exportations d'armement conventionnel et du contrôle de ces exportations. Comme vous le savez, chaque année est publié et soumis au Parlement un rapport sur le contrôle des exportations françaises d'armement. C'est un rapport qui indique que les contrôles des exportations sont certes faits par l'exécutif et dans lequel certes le Parlement n'a pas un rôle de contrôle peut-être aussi fort qu'il peut l'être être dans un État comme les États-Unis. Mais enfin, les dispositifs français de contrôle sont extrêmement intrusifs, extrêmement sérieux. Et en même temps, vous savez que la France est un pays exportateur d'armement. Mmh. Et par conséquent, il peut se situer, dans certains cas, dans des situations délicates, dans la mesure où un armement, on ne sait pas exactement ex post comment il est utilisé. Et ça pose la question du contrôle a posteriori de l'utilisation des armes qui ont été autorisées par les dispositifs SIEMGE en France. Et donc ça, c'est un point dans lequel il faudrait vraiment rentrer un petit peu plus en détail pour justement sortir de cette polémique.
Mais là, vous allez devoir conclure.
Oui, mais parce que cette polémique, si vous voulez, elle est médiatique, elle est séduisante, mais en réalité, il faudrait être beaucoup plus équilibré sur ce sujet. Mais de fait, la France est l'un des plus grands exportateurs d'armes, et cette exportation est liée à un certain nombre de dispositifs de contrôle, mais l'utilisation ensuite qui est faite des armements est plus compliquée à mettre en œuvre, et c'est l'un des chantiers d'ailleurs sur lequel travaille la mission d'information qui a été voulue par Marielle de Sarnez et qui va rendre son rapport en décembre prochain.
Merci beaucoup à tous les deux. Merci Isabelle Lasserre et Benjamin Haute Couverture. Je rappelle que c'est l'Europe qui sera à l'honneur du défilé du 14 juillet cette année.